France Inter. Le 7-9. Nicolas Demorand.
Les invités de France Inter jusqu'à 9h sont linguistes, spécialistes des mots dans tous leurs états. Cécile Alduy et en même temps Bernard Cerchiglini. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Cécile Alduy, professeure de littérature à Stanford aux États-Unis, chercheuse associée au CEVIPOF. Vous avez publié Ce qu'ils disent vraiment, les politiques prises au mot. C'était aux éditions du Seuil. Bernard Cerchiglini, vous êtes linguiste, conseiller scientifique du Larousse. Mmh. Très bel ouvrage. Nous voulions revenir avec vous sur les mots, les expressions, les discours, les querelles linguistiques qui ont agité l'année 2017. Petite liste indicative, disruption, révolution, perlimpinpin, balance ton porc, manspreading, écriture inclusive. Quel mot, quelle expression, quel sujet avez-vous retenu, Cécile Alduy ?
Le mot bienveillance, qui maintenant nous semble totalement anodin, alors qu'il était très neuf quand il a commencé à être employé par Emmanuel Macron en 2016 et puis dans toute la campagne 2017. Et c'est un mot qui nous vient comme concept des États-Unis, où il caractérise plutôt le camp démocrate libéral sociétalement plutôt, alors que Emmanuel Macron arrive à le manier avec son fameux en même temps pour en faire l'instrument d'une politique qui est moins bienveillante à certains égards sur des domaines précis comme l'immigration, la sécurité par exemple, ou l'économie. Et donc c'est intéressant de voir qu'un mot marqué très à gauche aux États-Unis est utilisé pour dépasser les clivages en France par Emmanuel Macron.
Et c'est une première en France, chez nous, dans le discours politique.
Ça appartenait pas du tout au vocabulaire politique avant. C'est un mot du vocabulaire moral, spirituel éventuellement, mais pas du tout du vocabulaire politique.
Et pour vous, Bernard Cerchiglini, oui.
Martine Aubry avait tenté le care. Sans succès.
Ouais.
Pour moi, je dirais le soin. Ouais. En même temps, je prendrais deux mots qui sont les deux faces de la mondialisation. D'abord, ubérisation, qui est pour moi le grand mot de l'année, qui est tout de même disruptif. Hein. C'est un changement dans
ça
les...
Ça fait deux mots.
Ça en
hein.
fait deux. J'en ajoute un. Tous les deux rentrés au Petit Larousse. Ouais. C'est un changement économique total. Et c'est aussi l'irruption de l'archaïque dans le moderne, puisque les employés n'ont aucune protection sociale. Et par ailleurs, l'adjectif inclusif, qui il y a encore un an était réservé à la logique ou la grammaire. Mmh. Et soudain, tout est devenu inclusif. La politique, les décisions, l'écriture. C'est un anglicisme.
Mais c'est encore un mot, effectivement, qui vient notamment des États-Unis, sur les campus américains.
Tout le monde.
Everything
inclusive.
Is inclusive. Oui, parce
inclusive.
Que les cours eux-mêmes doivent être inclusifs. C'est-à-dire
ça veut dire quoi, des cours inclusifs?
Ça veut dire qu'on
n'exclut personne.
Voilà.
On fait attention
exactement.
À inclure tout le monde.
C'est on inclut sur quelle base? Parce qu'une classe, on peut dire que, effectivement, il ne faut exclure personne et donc il faut inclure tout le monde. Mais inclure au nom de quels idéaux?
Faire attention, justement, dans le langage qu'on emploie ou même dans les textes qu'on choisit à étudier, à un public qui est très varié et donc être attentif aux sensibilités et ce qu'on appelle aux micro-agressions possibles d'un étudiant qui a des parents qui a des ancêtres qui étaient esclaves aux États-Unis, d'une autre qui vient de Corée, etc., des LGBT. Donc on doit en fait un peu marcher sur des œufs et essayer de s'adresser à tous, mais surtout de ne froisser personne.
Mmh. Les deux faces de l'individualisme, c'est les deux faces de l'individualisme. L'individu compte et il peut avoir droit à des prestations moins chères, c'est l'ubérisation, et il compte dans son individu. Mais du coup, la logique en prend un coup parce que la classification n'est plus du tout inclusive.
Voilà. Alors, puisque vous avez mis le sujet sur le tapis, Bernard Cerchiglini, allons-y tout de suite. Comment avez-vous analysé cette querelle qui est toujours vive en France dès lors qu'il s'agit de réfléchir ou éventuellement de réformer la langue française et de penser ou repenser la place qui tient le féminin, on va dire ça, faute de mieux. Pourquoi le sujet est-il à ce point sensible? Qui veut y aller? Cécile Alduy, allez.
Oui, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu tout ce débat sur l'écriture inclusive, sans même vraiment définir qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que les gens se sont vilipendés, notamment sur les réseaux sociaux, en parlant de choses différentes. Que ce soit d'un côté des gens qui critiquaient, peut-être à raison d'ailleurs, la graphie de l'écriture inclusive avec le point médian, et d'autres qui défendaient une théorie beaucoup plus globale, qui était de faire attention à la place effectivement du féminin dans la langue et la dénomination des réalités sociales, économiques, etc. Et donc on a réussi à avoir un débat sur le langage où les gens se disputaient sans parler de la même chose. Et je pense que la langue, c'est la culture et c'est l'identité aussi. C'est des traditions de génération, et toucher à la langue est toujours à la fois un instrument éventuel d'émancipation quand on réussit à faire bouger les choses, mais aussi une menace sur l'identité profonde de ce par quoi on existe.
Roland Barthes disait, oui, vous vouliez dire un mot, Bernard Cerqui-Gligny.
Cécile Audu a tout à fait raison. Le français est une langue au sujet de laquelle on se querelle. Le premier texte écrit en français sur la langue française en 1542 est un pamphlet en faveur de la réforme de l'orthographe. On a cessé de se quereller. C'est une affaire Dreyfus permanente, la langue française.
Barthes disait justement que la langue est fasciste. Est-ce que la langue française est machiste, Bernard Cerqui-Gligny?
Oui, elle a été... On dit qu'il faut la féminiser. Je dirais qu'il faut la démasculiniser. Jusqu'au XVIIIe siècle... Le français était féminisé sans problème, étant donné le statut de la femme. Et puis on voit au XVIIIe au XIXe siècle le recul social de la femme qui se traduit dans la langue. Une ambassadrice, ce n'est plus que l'épouse de l'ambassadeur. On a un féminin conjugal. Et d'où les problèmes quand enfin, légitimement, on a nommé des femmes à des ambassades, dans des préfectures, on ne savait plus comment les nommer. La féminisation actuelle, qui est légitime, c'est un retour au fonctionnement normal de la langue. La langue n'est pas neutre, elle traduit des discriminations.
Cécile Alduy.
Oui, alors moi ça m'amuse beaucoup ce débat parce que je suis spécialiste du XVIe siècle, époque à laquelle donc l'accord de proximité avec le féminin ne pose aucun problème. Et surtout, l'orthographe est un immense capharnaüm. Rabelais, Montaigne, etc. Ils écrivent comme ils veulent, leurs imprimeurs après corrigent, inventent des signes qui n'existaient pas encore, et ça ne fait aucune polémique. Donc la langue, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. J'encourage les gens à lire pour voir à quel point la langue se crée par la pratique finalement.
Mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui à la langue française, mais on pourrait le dire de la linguistique, mais de plein d'autres domaines, un rapport patrimonial aux choses. Ouais. Comme s'il fallait protéger la langue dans un état qui est de fait du coup. Il y a des auditeurs qui nous demandent au Standard d'Inter pourquoi on dit toujours du coup. donc ça, on va y revenir.
Langue de bois. Voilà.
Une langue qui est donc de fait pensée comme figée, non?
Oui, la langue est un patrimoine, bien sûr, surtout la langue française qui est dotée d'une telle culture, d'une telle littérature. Mais la politique que l'on fait à son égard est surtout patrimonial, comme une sorte de cathédrale qu'il faut restaurer. On oublie qu'il y a aussi une politique sociale. La langue, c'est aussi, je le dirais, un outil pour des usagers, des femmes, des hommes qui travaillent. Et ça, les Québécois l'ont fait activement, et nous avons un peu de retard dans ce domaine. Avec la féminisation, nous avons une pratique un peu québécoise. C'est une bonne chose.
Alors, il n'a échappé à personne qu'un nouveau président de la République a été élu, qu'il est à l'Élysée, croquignolesque, perlimpinpin, pacta sunt servanda, cordée, mais aussi tout le lexique venu du monde de l'entreprise. Comment décrire, Cécile Alduy, la manière de parler, de discourir, les mots qu'emploie Emmanuel Macron?
Emmanuel Macron, c'est un personnage, ou même plutôt un acteur caméléon qui s'adapte au contexte et qui parvient à d'un côté manier un registre de langue extrêmement élevé avec tout le vocabulaire désuet ou littéraire que vous avez cité, et après de dire faut pas foutre le bordel, de s'adresser aux fainéants, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il a remis au goût du jour des mots qu'on avait soit oubliés, soit qu'on n'utilisait plus, mais que c'est une sorte de petit piment stylistique du langage qui n'efface en rien les structures fondamentales de son discours. Et là, je pense qu'il faut vraiment parfois prendre un peu de distance et ne pas se focaliser sur les mots pour voir la logique des discours. Et la logique du discours, c'est une logique fondée sur une vision économique de la société où régler des problèmes de compétitivité, de coût de l'emploi, etc., va magiquement apporter une société meilleure. Donc, l'enrobage stylistique qui peut séduire, d'ailleurs, qui peut-être fait écho, cette nostalgie d'une langue belle qui assurait un statut à la France comme grande nation également, c'est un enrobage qui camoufle assez peu, finalement, l'autre versant que vous avez cité, c'est-à-dire la Startup Nation, qui... qui aura des conséquences sociales pas aussi surannées et désuètes que ça.
Mais ça dit quoi ? C'est-à-dire on a un double registre, l'un hyper moderne venu de la Silicon Valley.
On a un cagneux qui est devenu qui est devenu inspecteur des finances.
Bernard Cerquiglini.
Oui, c'est la version moderne d'une grande tradition tout de même. Oui. Depuis Charles V, un grand chef d'État à la fois protège la langue et l'illustre.
Tout à fait.
C'est clair. Alors que le candidat parlait beaucoup anglais, le président utilise un français traditionnel de bon aloi avec le petit Perlin Pimpin qui vient du XVIIe siècle. C'est tout à fait frappant. Il est protecteur de l'Académie française. D'ailleurs, quand on l'a accusé d'utiliser le mot bordel, il a dit oui, mais bordel est au dictionnaire de l'Académie française dans un emploi qui veut dire désordre.
Oui, bah ça s'appelle de la langue de bois. Alors venons-y.
C'est une jolie pirouette.
Ben voilà, venons-y justement. En politique, donc l'ancien monde est censé avoir été chassé par le nouveau. On est donc censé faire de la politique autrement, en parler différemment, avoir des parcours politiques et sociaux très différents. Est-ce que la langue de bois a pour autant disparu d'après vous, Cécile Alduy?
Encore moins qu'avant, j'ai l'impression, puisqu'on a une majorité monolithique en ce moment à l'Assemblée, c'est très très frappant, tous les intervenants, donc comme on les reconnaît pas très bien, parce que c'est un nouveau personnel politique, on n'entend que les mots, et les mots ce sont les mêmes, quelle que soit la personne qui parle, les éléments de langage sont distribués, alors maintenant de l'Élysée directement à l'Assemblée, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, et ce qui est très frappant, c'est que les mots qui caractérisaient Emmanuel Macron pendant la campagne, libéré et protégé, par exemple. Ce n'est plus lui qui le dit, puisque maintenant il est dans le domaine régalien ou de l'international, mais ce sont ses ministres, puis ce sont ses députés. Donc les mêmes éléments de langage ont circulé, mais se sont dispersés sur l'ensemble des représentants du mouvement En Marche.
Bernard Cerquiglini.
Oui, la langue de bois est toujours verte, elle donne de nouvelles feuilles. Vous avez cité l'expression élément de langage, qui me donne des boutons.
Oui,
voilà
absolument.
Un bel exemple de langue de bois.
Ça, élément
de
horrible,
langage,
c'est horrible.
Je crois que c'est de l'anglais, non ? Enfin, je crois.
Mais même pas. C'est apparu dans les années 2000 et c'est horrible.
Oui, je crois que ça vient plutôt du monde de l'administration ou des cabinets ministériels où on donne des éléments de langage.
Ça ne veut rien dire
à la personne.
J'en ai donné, j'en ai reçu, mais ça n'a aucun sens.
Mais il était tout de même étonnant. Et effectivement, vous avez raison, ça change quand on a vu arriver à l'Assemblée nationale et de fait très rapidement au micro de France Inter un certain nombre de personnes qui n'avaient jamais fait de politique. Eh bien, ces personnes ne parlaient pas la langue politique. Comme on pourrait dire, elles ne parlaient pas français. Et il y avait, du coup, il y avait de fait une petite musique qui était différente.
Il y a eu un moment de fraîcheur. Oui,
voilà.
De
et puis ensuite, fraîcheur. C'est redevenu
balisé. Parce qu'aussi, il y a un vocabulaire de l'Assemblée nationale, un rituel. La langue prend, Barthes le disait, elle prend.
Oui. Et puis c'est un vocabulaire spécialisé finalement, la langue politique, comme toutes les disciplines, donc ça sous-crée des expressions pratiques et donc utilisées au fur et à mesure de plus en plus.
Allez, on vous retrouve tous les deux juste après la revue de presse 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Claude Ascolovitch tout de suite.